Donc, possibilité de questions. Madame Proust, on parlait de parents fortement impliqués. 200 à répondre, j'ai bien compris, hein, il y a quelques années à ce sondage.
220 en 3 mois. 220 réponses en l'espace de 3 mois.
C'est ça. Ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui, j'imagine, aujourd'hui sont insatisfaits de la sélection.
Oui, bien sûr. Mais
qu'ils la comprennent
notre objectif,
ou pas
est-ce
qu'ils la comprennent, ce mode de sélection?
C'est pas nous qui choisissons la sélection. Hein. C'est la MDPH qui sélectionne et qui envoie sur la plateforme en fonction des propres critères d'admission qui sont d'abord des critères de maillage territorial. Et donc, il faut être sur un certain secteur. La plupart des associations qui ont vraiment travaillé très, très fort sur ce projet, on n'a quasiment aucun enfant qui vient de nos associations puisque nous étions hors secteur. Mais là, ce n'était pas notre objectif. On voulait vraiment, vraiment, vraiment pouvoir... peu importe le secteur finalement où allait ouvrir le CESAD, mais que des futurs parents qui n'ont pas encore d'enfants puissent avoir une possibilité, avoir le choix de pouvoir choisir de suivre. Nous, on a choisi de suivre l'ABA, mais on voulait que ce soit surtout une structure qui s'ouvre à des tout-petits. On voulait qu'il y ait vraiment une possibilité qui s'approche le plus possible du Denver précoce, et qui puisse permettre justement d'accéder. Alors après, l'Agence régionale de santé a des critères, et c'est en fonction de ces critères-là. Donc évidemment, on aurait tous aimé pouvoir y entrer, et avec des enfants de 0 à 20 ans. Mais on a choisi de privilégier des tout-petits.
Alors 30 ont été recrutés. Combien y en a-t-il en attente?
Je crois qu'on a une vingtaine, là. Peu plus de 20. 25 déjà en attente, avant l'ouverture, avant quasiment l'ouverture.
Sachant quand même que les critères très sélectifs ont été présentés aux pédopsychiatres du secteur, donc il y a des enfants qui n'ont pas été notifiés. Voilà, je veux dire, sinon la liste d'attente serait plus importante.
Des questions ou des remarques? Non? Étonnant. Alors, le fonctionnement entre partenaires, voilà, sans heurts, idyllique?
Idyllique avec certaines discussions, parce qu'on n'est pas, toujours tous d'accord, mais le fait d'avoir fonctionné avec des copiles stratégiques et des commissions où tout le monde a participé, c'est-à-dire que pour le recrutement, comme le disait Mme Forget, le médico-social a participé avec l'éducation nationale. Pour le recrutement des professionnels médico-social, c'est pareil, hein, on a fait ça avec les associations de parents. Donc je pense que ça a aidé à lever les incompréhensions, les sujets de discorde. Et on a réussi à effectivement trouver un terrain d'entente.
Et encore aujourd'hui, vous continuez
à
vous concerter,
on va dire. On continue à travailler ensemble sur les copiles opérationnelles. Donc on s'est investi très très tôt, ils nous ont complètement ouvert la porte, et nous les parents, on a envahi le lieu, et on a travaillé à chaque étape, on essayait toujours de comprendre pourquoi, comment, et ce qu'on pouvait améliorer par rapport à ce que nous, on avait imaginé. Et c'est vrai qu'on voulait intervenir à tous les niveaux et ils ont été fantastiques pour ça parce qu'ils nous ont vraiment laissé rentrer partout, ils nous ont vraiment guidés, il y a une forte guidance de compréhension et maintenant ben, on a des parents qui sont véritablement impliqués dans les copiles opérationnelles maintenant puisqu'on continue à travailler ensemble et à gérer.
Madame.
Bonjour, Corinne Delansommier, je suis pédopsychiatre.
Est-ce que vous pouvez parler plus fort? On ne vous entend pas du tout ici.
Je suis pédopsychiatre en Vendée, chef de pôle de pédopsychiatrie, et je travaille en temps partagé avec le CRA des Pays de la Loire. Je vous félicite parce que je trouve que ce schéma de collaboration est très intéressant. Après, je me demande quelle a été. Y a-t-il eu une compensation pour le centre hospitalier qui a mis à disposition des agents qui étaient eux-mêmes qualifiés? Ont-ils du coup perdu des moyens qui leur ont pas permis de continuer à faire leur travail dans de bonnes conditions ou ont-ils pu avoir des postes en compensation?
On a cru comprendre que non. Hein.
Alors, effectivement, c'est zéro compensation. Ça a été un don vers le médico-sos. Je parle du médico-sos puisque c'est eux qui portent. Donc c'est des moyens que je n'ai plus dans le secteur. C'est bien pour ça qu'il nous importe de pouvoir récupérer les actes en termes de RIMP venant du travail de ces agents pour que nous puissions les injecter dans l'activité du pôle. Parce qu'effectivement, c'est des agents que je n'ai plus. Donc nécessairement, l'activité du secteur est baissée d'autant.
Chapeau, je pense que ce n'est pas possible de faire ça partout. Hein.
On ne nous entend pas bien.
On n'a pas entendu votre dernière remarque.
Je pense que c'est quand même difficile de faire ça, de transposer ça. C'est quand même un vrai handicap quand même par rapport... on n'a pas non plus tant que ça de moyens dans les secteurs de pédopsie. On n'a pas que l'autisme, même si dans mon expérience, on y consacre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Mais après, on a de la grogne sur le reste de l'activité. Voilà.
C'est 6 sur combien ?
Le secteur, ça doit être le secteur pur. Si je sors l'hospitalisation radio, ça doit être à peu près 45-50 agents.
D'accord.
Ça fait beaucoup. C'est effectivement
ouais, c'est la proportion qu'il faut écouter.
Le choix de mon collègue. Et je vous rejoins que là, bon, comme dit, il y a une sorte de retour au sens que ces enfants, s'ils n'étaient pas là-bas, ils seraient chez nous. On va dire ça comme ça. Hein, c'est de cet ordre-là. Reste que je vous rejoins pour dire que dans nos files actives, les TSA, c'est à peu près 15%. Hein. Ça veut dire que nous avons quand même 85% d'enfants qui ne sont pas TSA, pour lesquels il faut quand même également pouvoir conserver des moyens. Reste que, je répète, si ces gamins n'étaient pas là-bas, ils seraient chez nous. Donc, de toute façon, je devrais m'en occuper.
Bien. On va laisser la parole à notre président de séance.
Oui, je rebondis là sur votre dernière intervention parce qu'effectivement, dans mon établissement, on a aussi mis en place un CESA de autisme en partenariat avec une association. Ça fait un petit peu plus longtemps, enfin 2 ou 3 ans que nous fonctionnons. Et là encore, voilà, c'est nos moyens qu'on a entre guillemets détournés pour mettre en place ce CESAT sans aucune compensation. Et comme le dit ma collègue, très clairement, alors d'une part, il y avait des enfants ou des adolescents, puisqu'on là on fait 3-20 ans, qui ne seraient pas, enfin qui seraient de toute façon dans nos files actives. Et puis il y en a d'autres, c'est-à-dire que ça a permis aussi d'ouvrir à d'autres enfants ou adolescents. Donc je dirais que moi je déplore, c'est-à-dire que je pense que là c'est une problématique beaucoup plus large, c'est-à-dire que je crois que le problème. Et là, les directeurs ne me contrediront pas là-dessus. C'est-à-dire que, très clairement, la psychiatrie, de façon générale, perd de l'argent depuis plus de 10 ans, tous les ans, année après année. C'est-à-dire que nos dotations annuelles de financement diminuent en réalité, c'est-à-dire n'augmentent pas en proportion des coûts, des frais, des augmentations. Et je ne parle même pas de l'augmentation d'activité de façon plus globale qui s'est faite en parallèle. Donc ça, c'est... Il y a un moment donné où, effectivement, il y a un point de tension et que là, on pourra dire tout ce qu'on veut, on pourra réorganiser tout ce qu'on veut. Il y aura de toute façon un moment donné où la question des moyens, soit supplémentaires ou des moyens, là, on en a parlé, de la formation, s'opposera nécessairement. Bon, après, là, je close cette parenthèse. C'est vrai que je trouve que ce qui est très intéressant, c'est d'abord, on en parlait tout à l'heure en insert avec la collègue précédente, c'est finalement, je pense que ce qui est nécessaire que nous ayons, nous, psychiatres ou pédopsychiatres, c'est une ouverture d'esprit. Et ce projet collaboratif montre bien ça. C'est-à-dire que finalement, s'ouvrir à la fois à l'associatif, s'ouvrir à des méthodes qui ne sont pas obligatoirement... Enfin, mon background de formation... C'est la psychanalyse. Ensuite, je suis passé à la thérapie systémique. Voilà, j'ai vécu beaucoup de choses différentes et variées. Je coordonne Profamille sur mon établissement. Donc, c'est vrai que quand j'ai découvert Profamille, dans un premier temps, ça a été un effort d'appropriation d'un outil qui n'était pas a priori mon outil conceptuel. Je pense que ça, c'est vraiment un aspect que je souligne. C'est la nécessité que nous ayons une ouverture d'esprit. Et puis après, je pense que ces méthodes-là nous donnent un... Par exemple, bon, là, nous, c'est ça, il est plutôt sur Teach. Il y a un SAMSA qui s'est mis en place à Saint-Avold qui utilise plutôt la méthode... zut, j'ai un trou... Sur les scénarios sociaux, voilà, avec le mind-mapping. Bon, je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des cadres dans lesquels il est possible d'intervenir. Et je pense qu'il faut peut-être avoir aussi cet aspect-là en tête. Et ça nous donne des cadres pour penser. Et je crois que ça, c'est important. Mais moi, ce que je retiens, c'est cet aspect collaboratif. Et ce que vous avez dit aussi, finalement, ça vous a permis... de développer des choses au-delà de la simple prise en charge des enfants. Et je pense que ça, c'est aussi une grande réussite de votre projet.
Merci, mesdames, pour cette présentation d'une belle coopération réussie.